Donc, dans les dimanches précédents, Jésus, on a vu qu'il a autorité sur le monde naturel, le monde spirituel, sur les maladies, sur les esprits démoniaques et même la mort. Dans tous les événements qu'on a vus dans les dimanches précédents, qu'on a couvert les autres chapitres du livre de Marc, on voit Jésus continuer à rencontrer des personnes avec le même désir. Et ce désir, c'est de provoquer chez les gens qu'il rencontre la foi en lui, la foi dans qui il est et la foi dans ce qu'il est venu faire, qui il est comme fils de Dieu. Mais ça n'arrive pas toujours, cette foi-là. Cette foi-là ne naît pas toujours dans les cœurs de ceux que Jésus rencontre, malgré que c'est l'objectif de Jésus de faire naître cette foi dans sa rencontre. Certains vont se moquer de Jésus, les chefs religieux sont scandalisés et veulent se débarrasser de Jésus, les foules sont étonnées et émerveillées, mais des fois ça ne va pas plus loin que ça. Sa famille biologique veut contrôler Jésus et le prend pour un fou. Son village ne peut pas le voir autrement que le petit gars du coin. Ses disciples veulent le suivre, mais n'arrivent pas toujours à croire en lui ou à le comprendre. On dit même à un moment donné qu'ils ont le cœur endurci. Et on voit ça au chapitre 6 de Marc, versets 51-52. On lit « Puis il monta près d'eux, dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits. » C'est tout de suite après que Jésus a marché sur les eaux et a calmé la tempête. Et on lit au verset 52 « Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. » Parce que leur cœur était endurci. Donc, ils étaient stupéfaits, ils étaient étonnés de voir Jésus pour la deuxième fois calmer une tempête, comme s'ils n'avaient pas compris déjà la première fois quand c'était arrivé au chapitre 4. C'est vrai que Jésus n'est pas toujours facile à comprendre. Il parle souvent en parabole, et il prend même ses disciples en privé plusieurs fois dans l'Évangile de Marc, pour leur expliquer le sens des paraboles. Puis on voit un exemple de ça au chapitre 4, versets 33 et 34, où on lit « C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. » Mais même à ça, même s'il leur expliquait en privé, les disciples, on dirait qu'ils ne sont pas toujours vite. On arrive donc à l'histoire qui nous intéresse ce matin dans l'Évangile, dans laquelle on rencontre la première personne de l'Évangile qui réussit à comprendre une parabole de Jésus. Mais ce n'est pas du tout la personne qu'on aurait imaginée. En fait, cette personne, dans le palmarès des personnes avec un avantage de comprendre les paraboles de Jésus, c'est probablement la dernière personne à laquelle on aurait pensé. Mais comme Dieu aime souvent le faire, on va voir qu'il va nous surprendre encore une fois par cette histoire étrange. Et dans cette surprise, Dieu se révèle encore un peu plus et va vraiment révéler davantage qui vraiment est la personne de Jésus. Donc, on va se rendre au chapitre 7 de l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc au chapitre 7. Puis juste pour vous mettre en contexte un petit peu, alors que peut-être certains d'entre vous allez voir dans votre Bible, vous vous rendez à ce passage-là. Dans les 23 premiers versets du chapitre 7, les chefs religieux qui avaient déjà au préalable comploté pour faire mourir Jésus ne croient pas en lui et critiquent Jésus parce que ses disciples ne respectent pas leur tradition humaine à propos de l'impureté rituelle puis l'idée de se laver avant de manger. Donc, ils critiquent les disciples parce qu'ils ne se sont pas lavé les mains avant de manger. Mais il faut comprendre qu'eux, c'était compliqué leur affaire. Ça prenait pas juste 30 secondes au robinet, là. Et donc, Jésus, dans les 23 premiers versets, leur donne un enseignement sur la vraie nature de l'impureté. Puis c'est une impureté qui n'est pas externe. La vraie impureté n'est pas externe à l'être humain, mais elle est plutôt interne. Jésus va leur enseigner que c'est le cœur de l'être humain qui rend l'homme impur, qui rend l'être humain impur. Ce n'est pas ce qu'il mange, ce n'est pas ce qu'il met dans sa bouche qui le rend impur, mais c'est ce qui sort de son cœur. Puis c'est suite à cet enseignement-là qu'on va ensemble prendre la lecture au chapitre 7 à partir du verset 24. Et nous lisons, « Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fillette avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était une non-juive d'origine syro-phénicienne. elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Donc, on voit Jésus se rendre dans le territoire de Tyr et Sidon, et on pense que c'est entre autres dans le but d'être seul avec ses disciples. Probablement pour se reposer puis les enseigner en privé, comme il avait l'habitude de faire. Il va donc au bord de la mer, dans la ville de Tyr. Puis je dis au bord de la mer parce que je n'ai pas mis l'image en avant, mais si on regarde la Palestine, on a un peu au nord le lac de Galilée, puis au nord-ouest, on a la mer Méditerranée. Puis sur le bord de la mer, vraiment, c'est la ville de Tyr et la ville de Sidon étaient deux villes sur le bord de la mer Méditerranée. Et donc, Jésus va se rendre dans un territoire non-juif pour se reposer, pour être loin des projecteurs. Il vient d'avoir comme un débat puis un enseignement avec ses disciples et les pharisiens. Et pas un débat avec ses disciples, mais avec les pharisiens, puis il en a profité pour enseigner la foule et ses disciples. Et donc, il s'en va sur le bord de la plage. Et c'est intéressant parce qu'au verset 24, le texte nous dit précisément qu'il voulait rester caché. Mais ça n'a pas été possible. À cause de cette femme non-juive, originaire de la Syrie Phénicie, qui était finalement pas loin, qui originalement venait pas loin de là. Et cette femme-là avait une petite fille avec un esprit impur. Et elle entend parler de Jésus. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'elle connaissait de Jésus, qu'est-ce qu'elle entend, mais elle entend parler de Jésus, puis c'est suffisant pour qu'elle aille voir Jésus et ses disciples se jette à ses pieds, puis en le suppliant sans arrêt de faire quelque chose pour elle et pour sa fille. Dans la version parallèle de cette histoire, dans l'évangile de Matthieu, parce que les évangiles synoptiques, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, ont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, les trois premiers évangiles du Nouveau Testament, sont des évangiles qui, pour beaucoup des histoires, sont rapportés dans chacun des évangiles, mais un petit peu différemment. Les détails nous sont rapportés de cette histoire-là, de Marc chapitre 7. Les détails nous sont rapportés un petit peu différemment dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. C'est pas mal la même histoire, mais il y a quelques détails de différents. Puis c'est comme deux témoins qui regarderaient une scène se dérouler, puis on irait leur poser des questions sur comment ça s'est passé, puis un a remarqué tel détail, mais l'autre a remarqué tel autre détail. Pas nécessairement des histoires, des détails qui se contredisent. C'est des histoires complémentaires. Et donc, dans Matthieu chapitre 15, on a un peu cette histoire qui nous est racontée là, mais là, avec le point de vue de Matthieu. Et c'est intéressant parce que dans cette version-là de Matthieu, on voit les disciples avec une attitude très négative par rapport à la femme, parce qu'il est en train de crier derrière eux autres alors qu'ils se déplacent. On peut penser que comme plusieurs Juifs du temps, elle était mal vue, cette femme-là, et aussi vue comme impure aux yeux des disciples. Premièrement, c'est une femme. Dans cette époque, dans cette culture, juste être une femme, tu partais moins 10 par rapport à un homme. En plus, c'est une femme non-juive qui vient de la Syro-Phénicie, un peuple avec un historique très négatif avec les Juifs, des ennemis des Juifs depuis longtemps dans l'Ancien Testament. C'est une femme non-juive, syrophénicienne, mais en plus, c'est une femme non-juive, syrophénicienne, dont la fille a un esprit impur. Ce n'est pas pour rien que Marc a choisi de mettre cette histoire-là dans le chapitre 7, juste après l'enseignement de Jésus sur l'impureté. Cette femme-là est un exemple typique de l'impureté à éviter à tout prix. Dans la version parallèle de Matthieu chapitre 15, comme je disais, on comprend qu'elle n'arrête pas de crier après Jésus pour avoir son aide, au point où les disciples demandent avec insistance à Jésus de la renvoyer, de la chasser, parce qu'il semble ne plus être capable de l'entendre crier. Puis c'est intéressant parce que Matthieu nous dit qu'au début, Jésus l'ignore, comme il ne répond pas à sa demande. Il fait juste continuer à marcher. Puis là, ses disciples sont comme Jésus, tu ne peux pas laisser ça continuer, là. C'est comme ça, pas d'allure, là. Arrête pas de nous crier après, là. Renvoie-la, chasse-la. Mais ici, dans Marc, elle finit par se jeter aux pieds de Jésus, alors qu'il était rentré dans une maison pour se cacher. Elle les a suivis jusque-là. Alors, la voyant à ses pieds, Jésus finit par lui adresser la parole. Puis il va lui dire, au verset 27, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Quoi? Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. J'aurais pensé que Jésus n'aurait pas comme fait exprès pour renforcer la pensée que les disciples auraient déjà eue de cette femme-là, impure et à éviter puis à mettre de côté. Peut-être vous vous dites, c'est quoi cette réponse-là? En tout cas, moi, c'était ma réaction initiale quand j'ai lu le texte. En gros, Jésus lui dit qu'il ne va pas délivrer sa fille en la comparant à, une chien, à un chien. Ou à une chienne, mais c'est le mot chien qui est utilisé au singulier. Donc, c'est comme étrange comme réponse. Un commentaire biblique, en fait, dit qu'à première vue, c'est une des paroles les plus offensantes de Jésus qu'on retrouve dans les évangiles. Certains vont la trouver aussi très énigmatique. Un gros point d'interrogation sur qu'est-ce qui est en train de se passer au juste ici. Je ne sais pas si vous, vous la comprenez, là, mais moi, j'ai eu de la misère à la comprendre. J'ai voulu que je roule mes manches pour travailler, pour essayer de comprendre ça. Je pense qu'on a besoin de s'arrêter un peu pour essayer justement de comprendre ce qui se passe ici. Puis j'ai trouvé très utile un article théologique sur ce passage-là qui a été écrit par Marie-Josée Fortin. C'est une membre de notre Église, mais qui ne vient pas ici les dimanches matins parce qu'elle a des problèmes de santé qui l'empêchent d'être ici dans le local, elle a des allergies sévères. C'est la femme d'Emmanuel, mais elle a écrit un article sur ce passage-là, sur ce texte-là, un article théologique, dans lequel, justement, elle dit « Le tout ressemble à une petite parabole, puisqu'une analogie est donnée dans l'explication. Le message est celui-ci. Les enfants sont les Juifs et les petits chiens sont les non-Juifs. » Je ne sais pas si ça l'aide d'accepter la parole de Jésus, de savoir ça, mais je suis d'accord avec Marie-Josée. Ici, on voit Jésus parler avec la femme sous la forme d'une parabole, avec une analogie, une comparaison qui est faite entre les enfants, puis les chiens, puis le peuple juif et le peuple non-juif. Tim Keller, un pasteur aux États-Unis, à New York, mentionne dans son livre « Une royauté différente » que c'est comme si Jésus disait à la femme « Comprends, s'il te plaît, qu'il y a un ordre à respecter. Je dois d'abord aller vers Israël, le peuple d'Israël, et ensuite seulement vers les autres nations. » Puis encore une fois, quand on compare ce qui se passe avec Matthieu chapitre 15, on voit même Jésus dire à la femme que lui, Jésus, a été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Puis c'est pour ça qu'il ne peut pas s'occuper d'elle, ni de sa fille. Mais est-ce que ce n'est quand même pas une insulte raciste, ça, de la part de Jésus? Laisse d'abord se rassasier les enfants, parce que ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants puis de le jeter aux petits chiens. Il est en train de dire à cette femme-là, finalement, toi, tu fais partie des chiens, là. Puis il faut que je m'occupe des enfants avant, les chiens. Tu sais, pour la plupart des Juifs, les chiens étaient des animaux impurs. Il faut se mettre dans les souliers des disciples, puis de cette femme-là, puis de cette époque-là. Les chiens étaient des chiens de rue, pour la plupart, des charognards qui mangeaient les déchets et les cadavres. C'est comme des raccoons, c'est quoi des raccoons en français? Des ratons laveurs, merci! Des ratons laveurs ou bien des oiseaux noirs, là, tu sais, des corneilles, là, tu sais. Sorry, j'ai de la misère avec mes références au niveau de la faune. Parmi les Grecs, parmi le peuple grec, les non-juifs, on pouvait trouver des chiens domestiques. Mais parmi les Juifs, c'était quand même rare. En fait, les non-Juifs eux-mêmes étaient vus comme des chiens par les Juifs dans la tradition des rabbins. Puis c'était péjoratif. Puis c'était l'opprobre qu'on mettait sur eux en les traitant de chiens. C'était pas du tout positif. Un terme péjoratif pour désigner les non-Juifs impurs qui adoraient des faux dieux puis qui pratiquaient le paganisme. Donc, une question légitime est-ce que Jésus ici est en train d'utiliser cette expression-là de chien avec ce sens dénigrant envers la femme non-juive qui est devant elle? Je pense que non, en fait. Jésus ne fait pas simplement l'insulter gratuitement. Et voici quelques raisons pourquoi je pense que ce n'est pas juste une insulte gratuite. Raison 1, cet épisode arrive juste après l'enseignement de Jésus sur la vraie impureté versus la fausse impureté. Donc, si en la traitant de chien, Jésus est en train de renforcer cette idée-là que l'impureté, c'est quelque chose d'externe, comme quelque chose que tu manges, ou ton origine ethnique, ça ne ferait pas de sens avec l'enseignement que Jésus vient de donner sur la vraie impureté qui vient du cœur, finalement, qui vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Son origine ethnique, c'est un facteur extérieur à elle. Puis Jésus vient de prendre le temps d'enseigner aux chefs religieux puis à ses disciples le contraire de tout ça. Donc, il ne ferait pas juste l'insulter. L'insulter sur la base de son impureté extérieure, si on veut. Deuxième raison pourquoi je pense que ce n'est pas juste une insulte gratuite, c'est que Jésus utilise un mot qui désigne justement les petits chiens, les chiots, qui pouvaient être domestiqués, même parmi les Juifs, à un certain égard. On va voir que dans sa réponse, la femme elle-même réutilise l'expression de Jésus et se l'applique à elle-même. Donc, elle n'a pas pris la parole de Jésus comme une insulte, même pas elle. Et la troisième raison pourquoi je pense que ce n'est pas une insulte gratuite, c'est que c'est comme si Jésus disait, en utilisant l'expression « les petits chiens », c'est comme si Jésus disait, « Tu sais, c'est vrai, vous n'êtes pas les enfants, vous êtes des petits chiens, mais vous êtes quand même dans la maison. » Il y a quand même un ordre à respecter. Les enfants mangent en premier, puis ensuite les chiens. Fait qu'on voit Jésus pas utiliser l'expression de « chien » comme juste des chiens qu'on veut rien savoir, qui sont dans la rue puis qu'on veut juste chasser. Non, il dit pas « les chiens n'ont pas à manger ». Il dit « les chiens vont pouvoir manger, mais il faut respecter une priorité ». Mais c'est quand même bizarre d'entendre ça, tu sais. Joël Lapierre, un pasteur à Trois-Rivières, qui est aussi le gendre de Norma Joseph, a fait un commentaire intéressant sur ce passage-là. Puis il dit « Jésus illustre par l'effet miroir l'attitude raciste et méprisante envers les non-juifs qu'avaient ses compatriotes et ses disciples. Une attitude qui est contraire au cœur de Dieu. Jésus dit le contraire de ce qu'ils pensent vraiment pour leur montrer comment ça n'a pas d'allure qu'est-ce qu'ils pensent. On appelle ça de l'ironie, en fait. Dire le contraire de qu'est-ce qu'on pense. Puis Jésus cherche à, justement, leur lancer le message opposé en exposant la pensée des disciples par rapport à la femme. Marie-Josée, justement, dans son article, démontre aussi que c'est un défi de foi que Jésus lance à cette femme sous la forme d'une parabole. Jésus dit à cette mère exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre pour répondre avec foi. On voit Jésus intentionnellement provoquer la foi et l'humilité de cette femme. Et dans ce cas-ci, alors que la famille de Jésus veut le contrôler, que les chefs religieux veulent le tuer, que ses disciples ne comprennent pas trop ce qu'il fait tout le temps, Marc nous montre que cette femme, dont on ne connaît même pas le nom, qui est traditionnellement vue comme impure et dont on ne devrait même pas s'approcher, est la première de l'Évangile à comprendre une parabole de Jésus. Puis la preuve, c'est sa réponse qu'elle donne à partir du verset 28. Elle dit, « Oui, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, tu peux t'en aller. Le démon est sorti de ta fille. » Et si ça, ce n'est pas l'approbation de Jésus, qu'elle a compris la parabole de Jésus, c'est quoi, tu sais? La femme répond à Jésus qu'elle est d'accord avec lui, mais elle entre dans la parabole. Elle prend les termes de la parabole de Jésus, puis elle argumente avec Jésus. Puis son argument, c'est que, oui, les petits chiens ne sont pas à la table avec les enfants. Puis oui, il y a une priorité donnée aux enfants à table. Mais quand même, est-ce que c'est pas vrai que les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent à terre? Cette réponse révèle la grande foi que cette femme a envers Jésus. Mais pas juste que sa foi est grande, mais la sorte de foi et l'attitude de sa foi. Et Jésus, même dans la version de Matthieu chapitre 15, nous dit à la femme, « Ta foi est grande. » Mais ici, dans Marc, ça nous est rapporté avec les paroles, « À cause de cette parole, va ta fille est libérée. » Qu'est-ce que Jésus pense de cette parole? Pourquoi il dit « à cause de cette parole » Qu'est-ce que cette parole représente pour Jésus? Pourquoi il semble être impressionné par cette parole? Mais je pense que c'est parce que plusieurs autres personnes que Jésus, qu'on rencontre dans les évangiles, comme plusieurs autres personnes qui rencontrent Jésus dans les évangiles, la femme aurait pu réagir de plein de manières différentes à la parole de Jésus. Exemple. Elle aurait pu réagir avec un orgueil blessé. « Tu me traites de chien? » Puis s'en aller, tout insulté. La femme aurait pu réagir à la parole de Jésus avec une fausse humilité. « Ah, c'est vrai, je suis juste un chien. » puis je ne vaux rien, puis je n'ai jamais rien valu, puis s'en aller découragée et déçue. Elle aurait pu réagir avec un cœur rempli de doute face à une réponse qui ne correspond pas à ses attentes. Peut-être que Jésus, finalement, ce n'est pas celui que je pensais. Je crois que c'est ici que se trouve le cœur du défi de foi que Jésus veut provoquer. Du moins pour moi. Est-ce que dans mon cœur, je vais me faire à croire que je n'ai pas besoin de Jésus? Ou est-ce que je vais me faire à croire que Jésus ne peut rien pour moi tellement je suis mauvais? Vous savez, ces deux manières de réagir sont deux moyens efficaces de passer à côté de la grâce de Dieu qu'il veut nous offrir. Puis je sais que moi, le premier, je peux aller d'un côté ou de l'autre dans la même journée de ces deux attitudes-là. Mais dans cette histoire, cette femme devient un modèle pour nous que Jésus nous recommande de suivre. La femme démontre sa foi dans qui est Jésus et elle démontre une juste opinion d'elle-même. Donc, elle a la foi que Jésus, à cause de qui il est, a le pouvoir de délivrer sa fille. Mais non seulement ça, elle accepte qui elle-même elle est, son identité. Quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille d'Israël, qui ne fait pas partie de ceux à qui Jésus a été envoyé en priorité, mais qui néanmoins peut bénéficier de la grâce de Jésus et de son ministère. Tim Keller, justement, que j'ai déjà cité, dit quelque chose de vraiment intéressant et ça vaut la peine de le mettre à l'écran. Il dit « Elle s'affirme sans en avoir le droit. Ce que nous ne savons pas faire. » Quand il parle de nous, il parle de la plupart des gens en Occident. Nous, en Occident, on revendique les choses pour lesquelles on a des droits puis on va aller les chercher comme quand j'appelle Vidéotron, là. J'ai tous les droits, là, puis vous allez baisser ma facture, puis sinon je m'en vais chez Bell, puis sinon, tu sais, puis là vous allez me donner ce qui est mon dû. Mais Tim Keller dit, elle-même, la femme, c'est comme si elle disait, « Seigneur, je ne te demande pas quelque chose que je mérite à cause de ma bonté. Je te demande quelque chose que je ne mérite pas à cause de ta bonté. » Imaginez la différence que ça fait dans l'attitude de cœur. En parlant de miettes de pain, la femme indique aussi qu'elle croit que ce n'est pas grand-chose pour Jésus de délivrer sa fille. Ça ne va pas faire de mal à personne. C'est les miettes qui tombent à terre. Ça n'enlèvera rien au peuple d'Israël. Ça ne va pas être forçant pour toi. Elle croit que Jésus est assez puissant pour le faire, sans que ce soit trop difficile pour lui. C'est comme si elle disait, « Je ne mérite pas de pain, mais même les miettes. Je ne mérite même pas les miettes. Mais me ferais-tu grâce dans ta compassion pour me permettre au moins les miettes tout de suite? » Cette femme démontre une attitude de mendiante qui veut recevoir par grâce ce qui lui est donné. Puis c'est intéressant parce qu'il y a un pasteur du Sri Lanka, D.T. Niles, je ne dis pas le, nom, le premier nom, il est dur à dire, du début du 20e siècle, a écrit dans un hymne chrétien les paroles suivantes. Nous ne sommes que des mendiants qui ont trouvé du pain et qui montrent à d'autres mendiants où le trouver. Puis ça résume tellement bien le cœur de cette femme. Et ce que je crois est le cœur que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Jésus voit ça dans cette femme et lui donne sa récompense sur le champ. Au verset 29, on voit « À cause de cette parole, tu peux t'en aller, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Qui aurait pensé ça venant de cette femme? Pas les disciples en tout cas. Puis probablement pas moi si j'avais été à la place des disciples. Mais Dieu aime nous surprendre en cherchant à provoquer la foi en nous. Même quand on ne pense pas que c'est possible. La femme est retournée chez elle et elle a vu sa fille délivrée, assise sur le lit ou couchée dans le lit. Jésus a même été capable de faire cette délivrance à distance. Il démontre encore son autorité sur la nature et sur le monde spirituel. Cette histoire est en contraste avec l'histoire qui suit dans le chapitre 7 à propos de la guérison d'un sourd et muet, où tout semble différent. Puis j'aimerais ça qu'on prenne juste quelques minutes pour aller voir l'autre histoire de guérison d'un sourd et muet qui suit cette histoire de la femme syro-phénicienne, juste pour voir la différence entre les deux, puis voir qu'est-ce que Marc cherche à nous faire comprendre en mettant ces deux histoires-là une après l'autre. On lit dans la suite, à partir du verset 31, que Jésus quitte cette région ensuite pour se montrer, pour se rendre par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire des 10 villes. On peut voir là, son itinéraire sur une map là, de ce temps-là. Puis, pendant son voyage dans un territoire encore non-juif, On demande à Jésus d'imposer les mains à un sourd qui a de la difficulté à parler. Donc, il y a comme peut-être des sons qui sortent, mais c'est du charabia, on n'entend presque rien. On comprend presque rien. Et on voit ici Jésus le guérir d'une manière toute particulière. Et il agit avec le sourd et muet et la foule qui est autour de là, parce que c'est la foule qui amène le sourd et muet auprès de Jésus. On voit Jésus agir vraiment différemment. Premièrement, il l'amène loin de la foule. Il amène le sourd et muet loin de la foule pour un tête-à-tête avec Jésus. Il lui touche la langue avec sa propre salive. Il lui met les doigts dans les oreilles. Il lève les yeux au ciel. Il soupire. Dans certaines traductions, on a le mot « il gémit ». Il dit « ouvre-toi » en araméen. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie et il se met à parler correctement. Pourquoi Marc nous met ces deux histoires-là, une après l'autre, dans le chapitre 7? Je pense que c'est parce que, entre autres, Jésus agit avec la foule et le sourd et muet complètement différemment qu'avec la femme syrophénicienne. Et Marc cherche à nous le montrer, en quelque sorte. Premièrement, c'est la foule qui apporte le sourd et muet. Et à la fin de la guérison, on voit que c'est la foule que Jésus fait des recommandations de ne pas le dire à personne. Puis c'est aussi la foule qu'on entend être épatée de tout ce que Jésus est. Mais c'est intéressant que le sourd et muet, lui, il dit absolument rien. Il est extrêmement passif comparé à la femme syrophénicienne ou même la foule. Tu vas dire, évidemment, qu'il dit rien, c'est un sourd et muet. Je sais, moi aussi j'y ai pensé, inquiète-toi pas. Mais même après avoir été guéri, on nous dit qu'il parle correctement. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Le point de Marc, c'est plus de nous montrer que Jésus l'a bel et bien guéri, mais ce n'est pas de nous dire quelle était sa sorte de foi puis qu'est-ce qu'il avait à dire. Même la foule qui amène le sourd et muet pour que Jésus lui impose les mains, c'est sous-entendu qu'elle veut que Jésus le guérisse. Donc, il y a comme une foi là-dedans. Il y a une foi en Jésus que Jésus peut le guérir comme il en a guéri plusieurs. Mais ce n'est pas une foi revendicatrice comme la foi de la syrophénicienne. Troisièmement, Jésus ne dit rien au sourd et muet. Il ne fait que faire une série de choses avec ses mains. Il regarde au ciel, il soupire puis il commande « ouvre-toi ». Puis encore, tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux que Jésus dise aux sourds et muets? Il est sourd. Il n'entendrait rien. Oui, c'est vrai, j'y avais pensé celle-là aussi, inquiète-toi pas. Mais c'est justement ça le point. Le point qui nous montre comment Jésus prend soin du sourd et muet dans cet épisode-là. Parce qu'il sait qu'il ne comprend de rien s'il se mettait à lui parler. Mais Jésus va lui parler dans un langage que lui-même peut comprendre. Il va le toucher. Il va lui parler dans un sens comme dans un langage des signes. C'est tes oreilles que je vais travailler, c'est ta bouche que je vais délier. Puis il regarde vers le ciel. Ça ne servira à rien que Jésus dit, je vais faire une prière à Dieu pour te guérir. Il regarde vers le ciel pour que le sourd et muet puisse voir ce que Jésus est en train de faire. Et Jésus commande et la guérison se produit. Donc Jésus lui parle dans un langage propre à lui, et on voit la douceur et l'attention de Jésus dans cette manière de faire. Chose qu'il ne fait pas avec la femme samaritaine. Hein? C'est comme, il frôle l'insulte avec la femme, pas samaritaine, mais syrophénicienne. Donc, l'approche de Jésus, différente envers la femme, qui est plus une provocation, contrastée à l'approche de Jésus envers le sourd et muet et la foule, qui est plus une guérison adaptée à qui il est et son état, nous enseigne des choses. Premièrement, Jésus cherche à susciter la foi en nous selon ce qu'il connaît de nous. Et il nous connaît bien, frères et sœurs. Marie-Josée, dans son article, conclut que Jésus interagissait d'une façon unique et appropriée avec chacun. Marc nous a présenté Jésus comme n'ayant pas peur de confronter les gens lorsque cela était nécessaire et de le réconforter lorsque c'était approprié. Toujours, Jésus est le héros qui sait exactement ce que chacun a besoin d'entendre et de voir. Tu vois, la foi de cette femme est surprenante et révèle un Dieu qui aime nous surprendre en provoquant en nous la foi comme celle de cette femme-là. Oui, cette femme syrophénicienne est la première à comprendre une parabole de Jésus dans l'Évangile de Marc. Mais il faut aussi noter que ceux qu'on penserait plutôt, qui ont un désavantage par rapport à la foi, sont ceux qui, en fin de compte, démontrent une foi exemplaire. Alors que ceux qu'on penserait qui ont un avantage par rapport à la foi ont de la difficulté à croire. Les « désavantagés » de la foi sont les gens typiquement de l'extérieur du cercle de Jésus, du peuple d'Israël. C'est les femmes, c'est les non-juifs, ou c'est les juifs considérés comme impurs qu'on doit tenir à l'écart. Mais c'est eux qui sont des modèles de foi dans l'évangile de Marc et dans cette histoire, n'est-ce pas? Et les avantagés de la foi, entre guillemets, sont les gens typiquement de l'intérieur. C'est sûr qu'on aurait pensé, les gens de la famille de Jésus, son village natal, ils ont un avantage, ils connaissent Jésus depuis longtemps. Les disciples de Jésus qui le suivent partout, les gens de son entourage et même les chefs religieux qui sont très connaissants de la loi et très connaissants de la parole de Dieu, on pense qu'il y aurait eu un avantage par rapport à la foi. Mais ce sont eux qui ont de la difficulté à croire. La foi que Jésus veut provoquer en nous ne suit pas nos catégories humaines, notre logique humaine et nos échelles de valeur. Peut-être tu es ici ce matin puis tu te surprends à explorer la foi. Peut-être tu nous écoutes en ligne puis tu t'es déjà dit dans le passé que tu ne voudrais jamais rien savoir d'une affaire de même. Mais là, tu es ici puis tu nous écoutes puis tu entends Jésus puis tu vois Jésus agir. Puis ça commence à faire du sens pour toi. Je veux t'encourager à venir parler à quelqu'un de ton cheminement, à venir poser des questions. Envoie-nous un courriel, info@commercialeglisedesentiers.com. Fais comme cette femme et relève le défi de la foi avec une vraie humilité. Ne laisse pas ça flotter à la dérive. Revendique de Jésus la grâce qu'il veut t'offrir, mais attends-toi à être surpris. Puis voici de quelle manière Jésus nous surprend de manière ultime. À la fin du chapitre, Jésus recommande de ne pas parler de ce miracle, mais cela crée l'effet inverse chez la foule. Plus il leur dit, plus ils répandent et publient ce que Jésus a fait. Puis ça arrive plusieurs fois dans l'évangile de Marc, ça. Jésus, de dire aux gens de garder ça secret, ce qu'ils connaissent de lui ou les miracles qu'ils l'ont vu faire. Puis on a le droit de se poser la question, mais pourquoi Jésus constamment fait cette demande? Puis il y a plusieurs raisons possibles. Je ne pense pas qu'on a besoin de choisir une raison puis rejeter les autres. Mais l'une des raisons, je pense, c'est de nous pointer vers la croix qui est la destination de l'Évangile. Marc veut nous amener à l'événement de la croix, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Puis c'est parce qu'avant d'arriver à la croix, on ne peut pas savoir qui Jésus est vraiment. Je vais le répéter. Avant d'arriver à la croix, on ne peut pas vraiment savoir qui est Jésus. C'est la croix qui nous révèle, dans toute sa splendeur, qui est Jésus puis qu'est-ce qu'il est venu faire pour nous. Tu vois, toutes les guérisons, les délivrances et les miracles de Jésus sont un accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et nous montrent que Jésus est le Messie promis dans l'Ancien Testament, des siècles auparavant. On a des prophéties très claires, comme celle d'Ésaïe, chapitre 35, les versets 1 à 6. On va la lire, ça vaut la peine. Cette prophétie nous décrit comment les choses vont se passer quand le Messie viendra. Et c'est exactement ce qui se passe avec Jésus. Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, du même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flagellants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici notre Dieu. Elle viendra à la vengeance et la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Jésus accomplit toute cette prophétie d'Ésaïe, ou presque. Parce que vois-tu, dans le verset 4, la promesse et que Dieu viendra lui-même pour sauver son peuple. Et lorsqu'il va venir pour sauver son peuple, le texte nous dit qu'il va apporter avec lui la rétribution, la vengeance, la rémunération, la colère de Dieu. Puis c'est ainsi qu'il va sauver son peuple. Donc le peuple est exhorté à prendre courage, à ne pas craindre. Vos ennemis, Dieu va s'en occuper. Il va venir vous sauver, puis il va régler les comptes de ceux qui vous dérange, puis de ceux qui sont vos ennemis. Mais si Jésus a accompli la prophétie d'Ésaïe pour nous sauver, qu'est-ce qui est arrivé à la vengeance et la rétribution? Qu'est-ce qui est arrivé à la colère de Dieu? Tu vois, je ne vois pas Jésus se venger puis donner à chacun ce qu'il mérite. Je ne vois pas Jésus anéantir le royaume des Romains ou ceux qui oppressaient le peuple des Juifs. Ce qui est arrivé, c'est que Jésus lui-même a subi sur lui la colère de Dieu à notre place. La Bible dit qu'à cause de notre péché, de rébellion envers Dieu, ce que moi je mérite, et chacun d'entre nous, c'est de recevoir toute sa colère, d'être condamné et séparé de Dieu pour toujours, loin de sa présence. Mais Jésus, le Fils de Dieu, à la croix, a été retiré de la table. Il est devenu un chien impur, affamé et méprisable, pour que nous, les vrais chiens, on puisse être assis à la table de Dieu, adoptés dans sa famille et rassasiés comme des fils et des filles. Amen. À la croix, Jésus est devenu muet volontairement pour que nous, on puisse avoir la langue déliée et le déclarer roi de nos vies. Voilà la plus grande surprise d'un roi qui constamment cherche à provoquer notre foi en lui. Il est allé jusqu'à la croix pour provoquer cette foi-là en toi ce matin, qu'on puisse lui demander la grâce de pouvoir exercer à notre tour la foi que cette femme a eue en lui. Amen.